Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci au Seigneur pour ce temps de louange qui restaure, qui fait du bien à notre être intérieur. Ce matin encore, j'aimerais que nous puissions continuer de méditer dans l'évangile de Matthieu. Nous y sommes depuis plusieurs dimanches. Nous ne suivons pas le livre de façon, je le dis, linéaire, par chapitre après chapitre, mais en tout cas, nous le suivons par rapport aux thématiques qui sont dans cette révélation de Dieu par l'évangéliste Matthieu. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur deux sujets. Un qui est plus d'actualité que l'autre. Nous venons de traverser cette semaine avec le 1er novembre qui est une date spéciale, n'est-ce pas? C'est quelle date déjà le 1er novembre? C'est la Toussaint, n'est-ce pas? C'est la Toussaint. Vous savez que la fête de la Toussaint n'a pas d'origine biblique, hein? Elle n'est pas tirée d'un texte biblique du tout, la fête de la Toussaint. La plupart des fêtes chrétiennes qui sont devenues des fêtes du calendrier occidental sont tirées de la parole de Dieu. Noël, Pâques, en tout cas les événements. Mais la Toussaint n'a pas d'origine dans la parole de Dieu. Elle a été instituée par l'Église qui était à l'époque la seule, l'Église catholique, pour faire face à un certain nombre de préoccupations et de situations particulières. Il y avait d'abord ce qu'on appelait la fête des martyrs, c'était pour célébrer les martyrs, ceux qui sont morts au nom de la foi. Mais ça c'est bien plus tard, parce que bien avant, c'était une fête païenne qui a été reprise par l'Église catholique, parce que cette fête païenne avait tellement d'envergure que l'Église, pour contrecarrer cette fête, a institué la Toussaint. C'était aussi une fête pour les morts, plus précisément une fête de la communication des vivants avec les morts. Donc l'Église, déjà sous Charlemagne, et puis ensuite sous le pape qui s'appelait Sixte IV, en 1580, a, comme le font dans l'Église catholique, a décrété que cette fête serait la fête de tous les saints. Hein, de tous les saints. Et tous les saints, c'était tous les saints catholiques. Maintenant, c'est devenu la fête du recueillement, où on va se recueillir auprès des êtres qu'on a perdus. Ça sonne important d'aller se recueillir. Mais j'aimerais juste préciser un texte biblique qui nous rappelle une vérité claire. Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La mort est une fatalité qui est une conséquence du péché originel. Elle n'était pas initialement dans le programme que Dieu avait donné aux hommes. Les hommes, au travers de notre ancêtre, Adam et Ève, ont dérogé à ce que Dieu voulait. Et finalement, la mort a été une conséquence. En tout cas, la mort corporelle a été une conséquence du péché originel. Il est vrai que nous pouvons considérer que la Toussaint, finalement, c'est la fête de tous les saints, n'est-ce pas? De tous les saints, de tous ceux qui témoignent leur espérance en Dieu par la mort de Jésus-Christ. Si c'est bien de tous ces saints-là dont nous parlons, donc c'est la fête de chacun de vous et de chacun de moi. Parce que nous sommes saints, pas par rapport à nos actes, mais par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Il est notre justification, il est notre sanctification. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs des épîtres, lorsqu'il s'adresse aux églises, il dit à mes frères, aux saints qui sont dans telle église. Oui, nous pouvons donc être encouragés, nous célébrer. Célébrer ceux qui sont morts dans la foi, parce qu'ils ont gardé la foi. Ceux-là sont des saints, comme chacun de nous, qui n'avons pas mérité par une canonisation ou par une béatification, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes saints. À cet égard-là, oui, nous pouvons continuer de nous souvenir que ce 1er novembre, comme beaucoup d'autres dates dans notre calendrier, sont des rappels. Des rappels qui peuvent nous encourager. Donc je pense que c'est le premier rappel qu'on peut avoir. Le deuxième rappel, lorsque nous fêtons la Toussaint, parce que c'est un férié, nous pouvons aussi nous rappeler que, oui, la mort est dans l'itinéraire des hommes. Mais de quelle mort s'agit-il? Comment est-ce que nous partons de l'autre côté, finalement? Est-ce que nous partons en paix, en ayant fait la paix avec Dieu? Au sens de cette paix avec Dieu. Et là, tout simplement, nous rappeler simplement qu'effectivement, sans Dieu, l'après va être très compliqué. Et ça doit nous redonner de prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un missionnaire qui a utilisé une expression peut-être difficile, il a dit oui, nous devons prier pour les morts, mais pas pour les morts qui sont au cimetière. Parce que le texte d'Hébreux dit, ils sont déjà morts. Ils n'attendent plus que soit le salut, soit le jugement de Dieu. Mais il dit, nous pouvons prier pour les morts vivants. Et on lui a demandé, mais c'est qui les morts vivants? Il dit, c'est tous les êtres humains qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils sont morts potentiellement pour l'éternité. Nous étions morts potentiellement pour l'éternité. Nous étions, nous aussi, sans Christ, morts loin de Dieu, quoique vivants. Et là, tout simple nous rappeler que nous avons besoin de prier dans nos familles, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de les porter à Dieu, de dire, Seigneur, répands ton esprit, sauve-les. Que par nos témoignages de vie, qu'ils puissent être aussi attirés, que par la prédication, que nous ne nous lassions pas de leur annoncer, qu'un jour, ils puissent entendre et écouter. La Toussaint nous rappelle aussi les êtres chers que nous avons perdus. Chacun de nous en a perdu. La liste peut être longue pour quelques-uns, courte pour d'autres, mais dans notre proche relation, nous avons plus ou moins perdu des êtres qui comptaient pour nous. Qui comptaient pour nous. Régulièrement, à la Toussaint, je me rappelle de mon grand frère. J'ai perdu mon frère aîné il y a bien longtemps. Et cette année, ça m'a rappelé bien d'autres amis. J'ai une amie que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années. On échangeait beaucoup par Internet. Il était en Afrique. J'étais ici. Il est même passé ici quelques fois. On l'a hébergé. Il a passé un séjour. Et puis, pendant 2-3 ans, j'avais plus de nouvelles. Ni sur Internet, ni rien du tout. Et moi, tout bêtement, croyant qu'il était encore de ce monde, j'envoie des messages à tous les autres amis. Avez-vous vu? Et tous les autres me répondent sur Facebook. Mais Serge, tu n'es pas au courant. Il est décédé. C'était un choc pour moi. Il avait à peine la quarantaine. La vie était devant lui. Il avait même eu une promotion incroyable de façon internationale. Il est décédé. Il a fait un AVC. Il est parti. Et puis récemment, on a perdu encore des amis à nous. Et puis plus récemment, mon beau-père. Et là, tout ça nous rappelle finalement que nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Au mieux, Genèse nous dit, chapitre 6, au mieux, nous avons jusqu'à 120 ans. Au mieux, 120 ans. Au mieux, 120 ans. Sur ce bout de caillou rond, nous avons 120 ans à passer ici. Et là, tout ça doit nous rappeler. Nous rappeler que nous sommes invités, lorsque nous avons le souvenir de ces personnes, à vivre de l'amour, pour l'amour et dans l'amour du Christ, et d'être meilleur jour après jour par rapport à cet amour de Christ. C'est pas une peur que nous devons avoir, au contraire, ça doit nous motiver autrement. Ça doit nous motiver autrement, frères et sœurs. Prions donc pour ceux qui n'ont pas encore la vie, parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Parce qu'ils demeurent dans cette mort éternelle, cette mort spirituelle, mais qui risque d'être éternelle s'ils n'ont pas le Seigneur. Réjouissons-nous de tous ceux qui sont partis dans la foi, car ils nous ont dévancés dans la félicité éternelle. C'est notre espérance. L'apôtre Paul dit ici, notre espérance n'est que pour cette terre, mais nous sommes bien malheureux. Parce que de toutes les façons, nous partirons chacun. mais pour l'éternité. Et cette éternité compte beaucoup. Et comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, pardon. Désolé, le temps fait son effet. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et justement, le deuxième sujet de ce jour, c'est cette apparition finalement de Christ, cette deuxième fois, n'est-ce pas? Est-ce que quelques-uns se souviennent de cette date-là? Ça vous évoque quelque chose? Comment? Voilà, il y avait une date comme ça qui, fin 2012, était très effrayante pour ceux qui n'étaient pas dans la foi. La diapo d'après. Ah. Le calendrier Maya. N'est-ce pas? Ça a déflagré les chroniques, ils ont fait des émissions spéciales. C'était impressionnant. Parce qu'il semble que ce calendrier qui avait déjà donné quelques prédictions qui s'étaient avérées avait dit que la fin de notre monde, ce serait le 21 décembre 2012. C'est les Mayas qui l'avaient dit. Une catastrophe planétaire. La fin de l'humanité. Hein, et l'interprétation du fameux Codex du Vatican, les cinq cycles, les cinq soleils, le cinquième soleil, dernier cycle qui doit s'achever le 21. Donc, et puis il y a eu ce film aussi qui est sorti 2012. Hein, je ne sais pas si vous avez regardé ce film. C'est aussi un film catastrophe sur la fin du monde. Et ça a fait paniquer les gens aux États-Unis ce film, parce qu'il avait des éléments soi-disant scientifiques que la NASA a dû faire un communiqué pour démentir que ces éléments qui étaient dans les films étaient pure fiction. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez ce film. Ça fait... Et même en France, ça fait bouger aussi un certain nombre de choses. N'est-ce pas? Et il y en a un des grands quotidiens, la diapo d'après, le monde des religions, c'est un quotidien de référence. Hein, hein, parce qu'ils sont censés être sérieux dans tous les thèmes qu'ils abordent. Même eux, à cette date-là, ils avaient aussi fait un grand titre. Les prophéties de la fin du monde. Je l'avais acheté ce numéro, ils ont recensé tout ce qui était sur la fin du monde, calendrier Maya, ils ont fait un édito, ils ont fait un document impressionnant, compilé des données. La fin du monde aura-t-elle lieu le 21 décembre 2012? Longtemps, je n'ai prêté aucune attention à la fameuse prophétie attribuée aux Mayas. Mais depuis quelques mois, de nombreuses personnes m'interrogent sur la question, m'assurant souvent que leurs adolescents sont angoissés par les informations qu'ils lisent sur Internet ou marquées par 2012, le film catastrophe hollywoodien. La prophétie Maya est-elle authentique? Et ça fait des émissions télé à ce moment-là. Les grandes chaînes ont fait même des reportages. Et même en France, il y a une petite ville. Il y a une petite ville qui a été prise d'assaut. À ce moment-là, la diapo d'après, s'il te plaît. Bougara. Ça fait la chronique. Tout le monde se précipitait pour acheter là-bas parce qu'il semble-t-il que c'était le dernier bout de terre qui n'allait pas être envahi, qui n'allait pas être détruit. Au pied de la montagne. Tout un reportage sur cette ville. Tout un reportage. Comme pour dire que quand même, dans un monde athée, la fin du monde intéresse quand même beaucoup de gens. Je suis pas sûr que ce sont les croyants qui sont allés acheter là-bas, mais je pense que c'est plutôt ceux qui n'avaient pas la foi. Et aux États-Unis, vous savez que ceux qui ont l'argent aux États-Unis, quand ils construisent leur maison, ils construisent toujours des abris anti-atomiques. Ils mettent des provisions. Ou certains groupements ont dans des grottes, dans des montagnes retirées, creuser des grottes pour se prévenir s'il y a une catastrophe, pour aller rester là-bas pendant que la fin du monde arriverait et qu'après ils sortiraient. Et on prépare le petit, enfin dans certaines régions des États-Unis, ils sont préparés à la survie, on appelle ça les kits de survie. Parce que les États-Unis, c'est le grand peuple catastrophe. Mais en France, on a frôlé ça à ce moment-là. Il y a eu un reportage, plusieurs reportages sur Boukhara, et le maire de la ville était dépassé, il dit, on n'a jamais vu ça. Une petite ville, 200 habitants, ils ont été envahis du jour au lendemain. Les prix des loyers, même pas des loyers, les prix des maisons étaient triplés. Tout le monde voulait acheter là-bas. C'était la belle affaire. Mais ceux qui font ça, ils savent pas ou ils n'ont pas l'information. Parce qu'il y a eu bien d'autres prédictions depuis le temps. Je vous en donne quelques-unes, mais si vous allez sur Internet, vous mettez fin du monde, voilà. Vous aurez toute une liste. Vas-y, s'il te plaît, la diapo d'après. En 1832, un certain Joseph Smith avait, donc c'est le fondateur des Mormons, hein, il avait prédit que Jésus reviendrait en 1890. Et William Miller, le fondateur des Adventistes, lui aussi, il avait prédit que Jésus venait en 1843. La Société de la Tour des Gardes, donc les Témoins de Jéhovah, elle a donné plusieurs dates, elle continue encore d'en donner quelques-unes. 1914, 1975, 1994. Un certain Edmond Dimes, président, voilà, de ce qu'on appelle PsyTech, il a prédit que le 3 avril 1999, des rayons mortels du soleil frapperaient la terre au point que seuls ceux qui se cacheraient dans les grottes ou sous terre survivraient, que des extraterrestres viendront chercher les survivants en 2012. Donc la terre serait frappée en 99, les gens seraient restés cachés 4 ans, et 4 ans après, les extraterrestres reviendraient. Mais les gens y ont cru, hein. Nous on rigole avec, mais dans le moment, c'était vraiment la prédiction du moment. Un certain Lex a prédit que le 7 juillet 1999, à 7h GMT, les planètes du système solaire seraient placées à une telle configuration que les pôles terrestres se déplaceraient de 90 degrés. Cela arrive tous les 12 000 ans, a-t-elle déclaré. Des tremblements de terre, des raz de marée, des explosions volcaniques, des déluges auront lieu partout sur la terre. Et puis les kabbalistes, Philippe Berg, du Centre de connaissances kabbalistiques, a prédit que le 11 septembre 1999, une grande boule de feu heurterait la terre. Mais ça, on a déjà entendu. Quand on explique l'extinction des dinosaures, on dit que à ce moment-là, il y a eu un grand astéroïde, une grande boule de feu qui a heurté la terre et qui a détruit la vie sur la terre, d'où l'extinction des dinosaures. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Mais les scientifiques en font une vérité historique. Michael Drosnin, le journaliste qui a popularisé le code de la Bible, annonce un conflit atomique mondial pour l'an 2000 et la destruction d'Israël par le Liban. Soit on n'est pas sur la terre, soit on est ailleurs, mais l'Israël existe encore, le Liban existe aussi. Et puis enfin, le 5 mai 2000, l'alignement de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, qui ne s'est pas produit depuis 6000 ans, va se produire et causera une dévastation. Ça, c'était pour l'année 2000. On est 18 ans après. Je vous en passe les bonnes et les meilleures. L'homme, qu'il soit chrétien ou pas, il a cette phobie de la fin des temps. Parce que, inexorablement, on sait tous qu'il y a la fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Même si on nous vend dans des produits cosmétiques la jeunesse éternelle, la fontaine de jouvence. Pourquoi la jeunesse éternelle? Parce qu'on voit bien qu'on vieillit. Bah, sinon, il n'y aurait pas cette jeunesse. Pourquoi on nous produit tous ces produits qui nous rendent et qui sont utiles, hein? Je ne discrète pas ces produits. Je constate juste si on les fait, c'est parce que justement on constate qu'on vieillit. Si on ne vieillissait pas, on n'aurait pas fait ces produits. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on sait bien qu'il y a une fin à toute chose. Et cette fin, on l'appréhende d'une façon ou d'une autre. Mais nous savons que déjà la Bible a déjà parlé d'une fin des temps. L'un des récits les plus anciens sur la fin de l'ancien monde est celui de Noé. Genèse 6, versets 1 à 14. Je vous ai mis quelques versets, mais je lirai à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue comme toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors et le test continue. Et le test continue. Je vous ai pris ces trois références pour nous rappeler. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez que bibliquement et théologiquement, le mal, c'est pas juste quand je n'insulte pas mon voisin. Le mal ici, c'est quand on se détourne de Dieu. Il y a le mal qui est violence, qui est ce qu'on appelle mal, qui est mauvais. Donc il y a le mal mauvais, mais le mal bibliquement, c'est pas simplement ce qui est mauvais. C'est quand on ne fait pas ce que Dieu demande aux hommes de faire. Les textes disent que toutes les pensées des hommes à ce moment-là étaient uniquement dirigées vers ce que Dieu n'aimait pas. Uniquement dirigé vers ce que Dieu n'aimait pas. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça veut dire que la corruption qui est rentrée dans l'humanité a même atteint la création. La création s'est trouvée atteinte. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Romains, même la terre, même la création soupire après l'avènement du Fils de Dieu parce qu'elle a été corrompue elle aussi. Si on n'écoute que les écologistes, on dit oui, c'est vrai, parce que les écologistes nous disent que notre planète, qu'on est en train de détruire tout, qu'on a tout pollué, qu'on a tous pollué, qu'on a même atteint la couche d'ozone qui nous protège, elle est en train de se détruire. Donc même la création a été touchée par la corruption. Dieu dit à Noé, pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence et je vais les détruire avec la terre. C'est un jugement. Dieu est juste. Est-ce que le déluge a bel et bien existé? Oui, puisque la Bible nous le dit, n'est-ce pas? La Bible est la vérité. Après, les gens font des discussions. Oui, mais est-ce que c'était un déluge planétaire? Peut-être oui, mais oui, parce qu'on a eu des... Les archéologues ont trouvé des preuves historiques d'un déluge. Mais oui, mais quand même, c'était pas sur toute la terre. Oui, c'est... Donc, c'est toujours pareil avec ce qui sort de la Bible. Lorsque la Bible dit quelque chose, on adhère, mais on met des réserves. Comme l'Exode, quand Moïse traverse la mer Rouge, on dit oui, mais... C'était pas tant la mer qui s'est divisée, c'est que c'était la marée basse au moment où Moïse arrivait là. Voilà. Bravo. C'est très fort, vous. La diapo d'après. Il y a des témoignages de cette période qui prouvent effectivement que tous les peuples de la terre à ce moment-là avaient eu connaissance d'un déluge. Les remarquables similitudes des traditions orales et écrites concernant le déluge parmi les peuples les plus divers de la terre, il n'est pas surprenant de voir les Suméniens, les Babyloniens et les Assyriens de Mésopotamie possédait une tradition semblable à celle des Hébreux, puisqu'ils ont vécu si près du siècle présumé de la civilisation antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge. La légende égyptienne rapportée par Platon dans Timée et la version du déluge que donne Marathon, donc on a dans des écrits historiques, donc de certains grands auteurs, des récits du déluge. L'un des récits les plus anciens qu'on date à peu près de la même période, on appelle ça l'épopée de Gilgamesh. Donc c'est une épopée dans un autre peuple qui raconte le déluge, mais à sa façon. Donc on voit que le déluge a bel et bien eu lieu, puisque plusieurs civilisations après Noé rapportent que dans leur histoire, il y a eu un déluge. Il y a un grand géologue français. Donc le géologue, c'est celui qui étudie les strates de la Terre, qui peut déterminer voilà s'il y a eu des événements par rapport à ce qu'il découvre dans les couches de la Terre. Et c'est le témoignage d'après. Tu mets la diapo d'après, s'il te plaît. Le grand géologue français, Pierre Termier, analysant en détail la description mosaïque écrite, le récit de Moïse n'a rien qui doive étonner un géologue. C'est le récit en langue vulgaire, avec de fortes images, d'un raz de marée de proportions gigantesques, consécutives à nous, ne savons quel effondrement. Le tableau est complet et le géologue le plus avisé ne le prendrait pas d'autre façon. C'est-à-dire, même pour un scientifique comme lui de l'époque, qui était réputé, connu internationalement, il dit, quand je lis ce qui est dans Genèse chapitre 6, je le crois. C'est arrivé. Moïse n'avait pas peut-être les mots que j'ai là, d'après ce qu'il dit, pour expliquer les choses de façon technique, mais ce qu'il décrit là, tout géologue le comprend quand il le lit. C'est-à-dire que Moïse, inspiré par Dieu, a donné des détails qu'un géologue comprend quand il lit le texte. Donc le déluge a bel et bien eu lieu. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire que Dieu a déjà jugé le monde et que ce jugement était fort. Il a déjà jugé le monde. Le monde a payé déjà une partie de sa désobéissance à Dieu. Ça a coûté presque toute l'humanité, puisque c'est Noé qui a repeuplé avec ses enfants, d'après les récits bibliques. Donc quand on parle de jugement, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Et Jésus lui-même, lorsqu'il, dans son ministère, il dit, dans un épisode, il atteste que ce qui s'est passé avec Noé est vrai. Parce que quand Jésus dit quelque chose, bah c'est la vérité. Matthieu, chapitre 24. Dans Matthieu, chapitre 24, on a Jésus qui est en discussion, qui sort du temple. Et les disciples lui montrent le temple, la beauté du temple. Et Jésus dit, mais ce temple, de toutes les façons, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple va être détruit. Il a dit, mais c'est quand est-ce que tu vas détruire? Quand est-ce que le temple va se détruire? Quand est-ce que ça sera la fin du monde? Et Jésus commence à expliquer. Il commence à expliquer la fin du monde avec des signes précurseurs et tout. Et là, il a cette phrase. Voilà, ça c'est le texte. On remet la phrase d'après. On va lire le texte tout à l'heure. Avant, pardon. J'ai dit après, mais ça va. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le texte maintenant. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors de deux femmes qui moudront de la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand nous lisons ce passage, Jésus dit que ce qui s'est passé dans le temps de Noé est une vérité historique. Noé, quand il construisait ce bateau, cette arche, les gens lui disaient, mais il est fou. Mais c'est un illuminé. Mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Quand les gens lui posaient la question, pourquoi tu construis ce bateau? Il disait la réponse que Dieu lui a donnée. Et les gens disaient, ça c'est plus affabulation, toutes les façons, voilà. Il veut faire sa vie en construisant une arche, bah, si c'est son hobby, qu'il le fasse. Mais nous, on a d'autres choses à faire. Ils vivaient leur vie. Ils ne prenaient pas conscience de cet avertissement. Noé, lui, il a pris cet avertissement très au sérieux. Il y a appliqué son cœur. Il y a travaillé avec les consignes que Dieu lui a données. L'avènement du Fils de Dieu sera inattendu. Tous les textes qui parlent du retour de Jésus disent à 100% tout le monde sera surpris. Et les chrétiens et les non-chrétiens, nous serons tous surpris. Il y a des surprises heureuses. Donc les chrétiens seront surpris agréablement. Mais les non-chrétiens seront surpris désagréablement. Il ne s'attache pas à donner une date, une heure. De toutes les façons, il dit dans le texte, je ne vous donnerai ni l'heure ni la date. Il n'y a que Dieu qui l'a fixé. Ce que vous vous concerne, c'est d'être prêt, de rester éveillé, de rester vigilant, de continuer à grandir dans votre foi et d'avertir ceux qui n'ont pas le Seigneur. La date, je voulais faire la démonstration, il y a toujours eu des dates de ce retour. Mais pour Jésus, cette date n'était pas importante. C'était la préparation des croyants, la préparation des enfants de Dieu qui était importante. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Car qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'en tenaient pas compte. Il n'y avait que Noé et ses descendants qui en tenaient compte. Et Jésus dit, ce jour-là sera un jour semblable. Les gens continuaient à vivre leur vie. Ils ne s'inquiétaient pas du jugement qui les menaçait. Et ils ont été emportés par ce jugement. Alors Jésus dit, il y aura deux catégories. Il y aura ceux qui auront accepté l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont entendu le message de Jésus, ils seront sauvés. Il y a ceux qui ne seront pas sauvés. Et c'est la triste réalité. Et c'est tout l'intérêt de l'Église, de continuer de dire le message, d'annoncer l'Évangile, de proclamer la bonne nouvelle, pour que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore le Christ l'entendent. C'est là toute la mission de l'Église, d'aussi continuer de prier pour que Dieu répande son esprit, comme nous l'avons chanté ce matin. Pour que les cœurs se tournent à Dieu. Il prend deux illustrations. Il dit de deux hommes qui sont en train de travailler, l'un sera enlevé et l'autre laissé. De deux femmes qui seront aussi affairées à la tâche quotidienne, l'une sera enlevée, l'autre laissée. L'accent est mis sur le fait qu'on n'aura pas forcément des signes avant-coureurs. On n'aura pas eu le temps de se préparer. Jésus dira même dans l'évangile de Matthieu que ça ne sera même pas la peine. Vous n'aurez même pas le temps de dire « je vais chercher quelque chose pour partir ». Vous serez tous surpris. Et du reste, quand Jésus donne des prophéties, on appelle ça les doubles accomplissements des prophéties de Jésus. Il y a toujours un accomplissement dans l'histoire. Et il y a un accomplissement pour la fin des temps. Et Matthieu 24 s'est accompli en l'an 70, une bonne partie. Parce qu'en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit à nouveau. Et il y a eu un malheur qui s'est abattu sur le peuple d'Israël en l'an 70. Et depuis l'an 70, le peuple d'Israël n'a plus, enfin les juifs non chrétiens n'ont plus la même adoration parce qu'ils n'ont plus le temple. Et depuis l'an 70, les Juifs disent, Dieu nous a abandonnés. Il n'y a plus de sacrificateur parce qu'il n'y a pas de temps pour les sacrificateurs. Donc la case des sacrificateurs a été détruite. Tout ce qui était lié au culte a été détruit en l'an 70. Et c'était une vraie tragédie pour le peuple d'Israël. L'an 70 laisse marquer. Donc une bonne partie de ce que Jésus avait prédit dans Matthieu 24 s'est accompli. Encore là, les critiques et les spécialistes disent oui. Est-ce que ce livre n'a pas finalement été écrit après l'an 70? Parce que les détails sont tellement précis qu'il lui fallu qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu ça pour le redire dans le texte. On cherche toujours à dénigrer la parole de Dieu quand elle dit des choses précises, n'est-ce pas? Bref. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, quoique aujourd'hui un voleur peut t'avertir, il vient quand même, mais on n'est pas dans cette période-là. Mais à l'époque, il dit, si le maître savait qu'un voleur viendrait, ben, il attendait de pied ferme. Il allait ameuter toute la tribu et on veillerait la nuit. Et quand le voleur viendrait lui-même, il verrait qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il y a du monde, il y a toute une précaution qui est prise. Donc, si nous savions, et Jésus dit, en fait, l'homme, il aime qu'il ait des dates pour se préparer. Mais Jésus dit, c'est pas la date qui doit vous faire préparer. C'est que l'objet de ce que vous attendez est tellement beau que vous devez vous préparer. Peu importe la date. Finalement. Jésus met constamment l'accent. La diapositive d'après, s'il te plaît. Le chrétien et la chrétienne. Disciple de Jésus-Christ doit être toujours prêt. Prêt parce que nous avons le Seigneur. Notre préparation n'est pas liée à nos œuvres. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Mais parce que nous sommes sauvés, nous devons continuer de manifester les œuvres de notre salut. C'est ça notre préparation. Continuer d'être des chrétiens qui grandissent dans leur foi, qui grandissent dans leur caractère, qui grandissent dans leur comportement, qui grandissent dans ce qu'ils savent faire, et qui continuent d'essayer de voir là où ils n'ont pas encore mis la parole de Dieu en application, dans quel domaine ils ne sont pas encore parvenus à être fidèles à Dieu et continuer d'y travailler avec la grâce de Dieu en demandant l'aide du Saint-Esprit. C'est ça être prêt. Parce que toutes les façons de salut, il n'est pas lié à nos œuvres. C'est la grâce de Dieu, c'est un don gratuit, c'est une faveur. Et lorsqu'on est à cette faveur, on doit y demeurer. N'est-ce pas? La diapo d'après. Jésus dit toujours la vérité. Et s'il dit que ça va avoir lieu, ça a déjà eu lieu une bonne partie, c'est que ça va encore avoir lieu. Seras-tu prêt? Serais-je prêt en préparant ce test? C'est la question. Serais-je prêt? Si c'est sur mes œuvres que je compte, je ne serai pas prêt. Mais s'il y a Jésus dans mon cœur, si c'est Jésus qui est mon salut, oui, je suis prêt. Comme l'a dit une sœur dans sa prière. Pourquoi nous sommes prêts? Pas parce que nous sommes les meilleurs êtres humains du monde, mais parce que Dieu nous a invités, il nous a rappelé qui nous étions, nous avons reconnu que Dieu a dit la vérité parce que nous sommes pécheurs et pécheresses, et nous l'avons accepté dans notre cœur. Et Christ est venu habiter dans nos vies. Et désormais, c'est lui qui est le salut de notre vie. Il est notre sauveur et notre Seigneur. Voilà pourquoi je suis prêt. Parce que Christ est mon sauveur. Il est mon salut. Il a payé le prix pour moi. C'est cette grâce qui fait me dire, oui, je suis prêt car Christ m'a sauvé. Ce n'est pas mes œuvres. Oui, je suis prêt. As-tu le Seigneur dans ton cœur? As-tu accepté Christ? As-tu reconnu que tu es pécheresse, pécheur? As-tu accepté que Christ a payé le prix pour toi à la croix? L'as-tu reçu dans ton cœur? Désormais, marches-tu sous le regard du Seigneur? Si c'est le cas, alors oui, tu es prêt, mon frère. Alors oui, tu es prête, ma sœur. Il n'y a pas à chercher. Mais si ce n'est pas le cas, ne tarde pas. Ne tarde pas. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton Dieu. Ta foi chrétienne sera toujours d'actualité. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais après, c'est nous qui devons entretenir cette grâce. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Ça dit, continuons de faire les œuvres de celui qui est notre Père. Vivons comme des chrétiens. C'est ça qui va faire que nos vies chrétiennes seront toujours d'actualité. Ne nous laissons pas empiler, embarrasser, enfouir sous les soucis, les plaisirs, les trains-trains, les tracas de ce monde. On en aura jusqu'à la fin. On en aura jusqu'à la fin de notre départ ici. Donc autant se faire une raison et s'appuyer sur Dieu et avancer avec lui. Nul ne connaît le moment où cet événement se produira. Quand nous nous rappelons de la Toussaint, tous ceux qui sont partis ont déjà vécu la fin du monde. Parce qu'ils ne sont plus là. Eux, ils sont partis. Peut-être demain, je partirai. Je ne sais pas quelle année Dieu a décidé que je partirai avant même que la fin du monde ne se présente à toute l'humanité. Ma mort sera la fin du monde pour moi. Parce que Hébreux dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Que le Seigneur me garde vivant en lui. Voilà le sens de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? La diapo d'après, s'il te plaît. Oui, ce jour sera un jour de jugement comme au temps de Noé. Pour l'instant, c'est le temps de la grâce. La Bible dit que le ciel est ouvert, que Dieu est disposé et disponible pour sauver tous ceux et toutes celles, où qu'ils soient, de quelque race qu'ils soient, qui reconnaissent en Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur. C'est ouvert, la grâce est ouverte. On peut tomber, se relever, la grâce est ouverte. Mais quand le Fils de l'homme viendra, ça sera fini. Ça sera le jugement. Il n'y aura plus de grâce. Quand il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, le jugement, pour ceux qui sont en Christ, l'attente du salut. Frères et sœurs. Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Noé a persévéré dans l'obéissance, lui et ses enfants, dans la confiance en la parole de Dieu. Il ne voyait rien. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas d'ouragan. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien pendant qu'il construisait le bateau. Donc, il n'y avait même pas de signe qui annonçait qu'il allait avoir une pluie abondante. Rien. Et pourtant, ils ont continué à construire. Et pourtant, il a continué à faire monter les animaux. Parce qu'il avait simplement entendu Dieu lui dire des choses, il a dit, c'est vrai. Si Dieu l'a dit, ça va arriver. Alors, t'encourager, m'encourager, comment nous lisons la parole de Dieu, comment nous continuons de la mettre en pratique. Noé a fait cela. Il n'a pas lassé, c'est pas lassé d'obéir à la parole de Dieu. Comment est-ce que nous servons Dieu? En bâtissant cette arche, en allant chercher les animaux, il était en train de servir Dieu. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit comme service. Voilà ta mission, Noé. Voilà ce que tu dois faire. Au-delà du salut que je t'ai accordé à toi et à tes enfants, tu dois aussi chercher toutes les espèces de chaque animal. Tu dois construire ce bateau. Il a fait, il a servi Dieu. Comment est-ce que nous servons Dieu? Comment est-ce que nous continuons de nous investir dans l'œuvre de Dieu? Chacun de nous est invité à servir Dieu, ne serait-ce que dans l'église locale, à s'investir. Même si c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, nous servons Dieu. Mais l'endroit où nous sommes ensemble pour servir Dieu, c'est l'église. C'est l'église. Enfin, il est possible de se préparer, frères et sœurs. Pour nous qui sommes croyants, il est possible de rester dans cette préparation. La conversion, c'est se reconnaître pécheur devant un Dieu saint et se repentir de ses péchés et se confier dans le don de Dieu, Jésus-Christ, mort pour nous procurer le pardon. Selon Éphésiens 2, verset 1 à 10. Lorsque nous nous confions à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il nous vivifie. Avant, notre compréhension de la foi biblique était obscurcie. Mais quand l'Esprit vient, maintenant, nous pouvons mieux comprendre et accueillir la vie spirituelle, mieux discerner la parole de Dieu. Maintenant, nous devons choisir de vivre dans la lumière de cette vie nouvelle que nous avons en Christ. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, à la Bible, l'Esprit travaille en tandem avec nous pour changer et transformer constamment notre être intérieur. Au temps de Noé, la Bible dit que la violence avait atteint un paroxysme. Je regarde notre monde, je regarde notre société et la violence, même chez les plus jeunes, et je vous passe les événements récents, même chez les plus jeunes. Et c'est encore malheureux que souvent dans l'église, on soit en train de constater qu'il y a aussi de la violence et des conflits. Oui, nous sommes des hommes, il peut y avoir des conflits, c'est pas ça le problème. C'est comment nous réglons nos conflits quand nous sommes chrétiens. Si nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu, nous saurons mieux appréhender ces choses, mieux régler ces choses, mieux calmer ces choses. Parce que Dieu nous transformera de l'intérieur. Nous allons chanter ce premier chant pour terminer. Que ce chant soit une prière de chacun.
Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble?
Pense-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes réponses-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous. Viens ranimer notre flamme, viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains, viens ranimer notre flamme, viens purifier. Revêt-nous de ta puissance, revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur, ô Seigneur. Nous voulons t'adorer. Revêt-nous de ta puissance, Seigneur. Façonne-nous, travaille en nous. Nous voulons être semblables à toi, être prêts pour toi, Seigneur. Répands sur nous ton esprit saint façonne-nous entre tes réponds sur nous, réponds sur ton esprit saint façonne-nous entre tes mains. Répands sur nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Répands sur nous, ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains.
Amen.